16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages célèbres qui étaient des enfants illégitimes. Après le duc du Maine et Eva Perón, vous nous racontez, Mathieu, le destin d'un des plus grands acteurs du XXe siècle qui lui aussi a découvert sur le tard qu'il était un enfant illégitime. Jack Nicholson.
C'est une histoire de dingue, Stéphane. Je sais que dans votre milieu, chez les aristos, il y a souvent des rebondissements. Et il n'est pas rare, ce milieu que vous aimez tant, il n'est pas rare, avec tout cet acharnement consanguin pluricentenaire, qu'une jeune princesse apprenne qu'elle n'est pas tout à fait la fille de sa mère.
J'ai une énorme révélation à te faire. I am not ta mère. Ta mère, ma fille, la femme de ton père était ta mère. À mère, à la mort de ta mère, ton père, ma fille, me dit « Sois la mère de ma fille. Je fus donc ta mère sans être ta mère. »
Bref, vous aurez reconnu l'extrait du film qu'on adore, « Elle voit des nains partout ». Eh bien, Jack Nicholson a dû lui aussi affronter une révélation de ce type lorsqu'il avait 37 ans. Avant cela, il a vécu dans l'ignorance de ses véritables origines. Comme cela ne vous étonnera pas de l'apprendre concernant un personnage aussi énigmatique et curieux que Jack Nicholson, il voit le jour à Neptune. Pas sur Neptune, mais à Neptune, petite ville du New Jersey. Le 22 avril 1937, il est élevé par John Nicholson, étalagiste dans un grand magasin, et Ethel May Rhodes, coiffeuse et artiste à ses heures perdues. Jack est un enfant farceur et joyeux. Le genre à faire des expériences cocasses avec son microscope, si vous voyez ce que je veux dire. Une année au lycée, il réussit l'exploit d'être collé tous les jours d'un trimestre. Le bac en poche, il décide de suivre son instinct qui le guide vers Hollywood. Coup de bol, sa grande sœur June bosse là-bas et elle peut le loger. Mais est-elle vraiment sa grande sœur ? Ha ! Vous le saurez à l'issue de cette chronique, laissez-moi faire monter le suspense doucement. C'est donc âgé d'à peine 13 ans que le petit Jack se pointe, la mine enfarinée, devant les studios d'animation de la MGM où deux producteurs, William Hanna et Joseph Barbera, acceptent de le prendre sous leurs ailes, lui confiant un poste d'assistant animateur. Mais voilà, le petit Jack rêve plus grand, il veut devenir acteur, il veut lui aussi apparaître sur le grand écran et lancer aux Indiens comme John Wayne.
Oh les mains !
Bon, on n'avait pas les droits des films de John Wayne, donc j'ai pris l'extrait de Meurtre en Lorraine. Évidemment, si Jack était tombé sur Meurtre en Lorraine plutôt que sur Rio Bravo, il serait peut-être resté dans l'animation. À quoi ça tient une carrière ? Bref, Jack commence par des rôles dans des films à petit budget, notamment dans La Terreur, où il incarne un officier de l'armée française séduit par un fantôme lubrique. Un scénario étonnant qui semble tout droit sorti d'un rêve de David Castello-Lopez et qui n'aura aucun succès. De nanar en nanar, Jack se dit un jour qu'il gagnerait peut-être à repasser de l'autre côté de la caméra pour se faire un nom. Et oui, c'est en tant que scénariste que Jack Nicholson va commencer à faire son trou à Hollywood. Il écrit The Trip pour Peter Fonda et Dennis Hopper, qui le rappelleront un peu plus tard pour un petit projet sympatoche où il incarnera un avocat alcoolo amateur de grosses cylindrées et de femmes dénudées, le titre Easy Rider. C'est le déclic de sa carrière d'acteur. Les propositions s'enchaînent, Stanley Kubrick en personne le contacte pour interpréter Napoléon, un film qui malheureusement ne verra jamais le jour, officiellement à cause d'un changement de direction dans le studio, officieusement à cause d'une lettre de menace émanant d'une personnalité franco-luxembourgeoise de premier plan où l'on pouvait lire « Connard de ricain, pas touche à Bonaparte, personne ne peut incarner dignement l'empereur et certainement pas un bouffeur de hot-dog ». En 1970, Nicholson explose dans « Five Easy Pieces », un film qui va définir son archétype, celui d'un anti-héros étrange, arrogant et sanguin. Pourtant, les cinéphiles estiment que la révélation qu'il va avoir en 1974 sur sa filiation n'est pas qu'une anecdote dans sa vie, mais un tournant dans ses choix cinématographiques. Il faut dire que la claque est rude. Nous sommes donc en 74, un journaliste du Time enquête sur la vie de l'acteur à l'occasion de la sortie du film Chinatown de Roman Polanski. Durant ses recherches, le reporter découvre que la famille de Jack Nicholson a longtemps caché un secret, celle que l'acteur considéré comme sa mère serait en fait sa grand-mère et c'est sa sœur June qui serait en réalité sa mère.
Je comprends rien de quoi vous dites.
C'est simple Stéphane, c'est simple. Sa sœur, c'est pas sa sœur, c'est sa mère. Et ah oui, en plus, son père qu'il croyait mort est vivant, alors que sa sœur et sa mère, elles, sont mortes. Bref, trouvant l'information intrigante, le journaliste en question décide de questionner directement l'acteur à ce sujet. Pour amener finement le sujet, il fait alors le rapprochement entre l'une des scènes du film et la vie de l'acteur. Dans Chinatown, en effet, le personnage interprété par Faye Dunaway avoue au personnage joué par Nicholson qu'elle est à la fois la mère et la sœur de sa fille. Le journaliste demande alors à l'acteur si cette scène a une certaine résonance avec sa propre vie. Et là, dans le regard de Nicholson, le reporter comprend.
À la boulette. Ah oui, j'ai fait la boulette.
La méga boulette. Jusqu'à ce jour, Jack n'avait jamais envisagé cette hypothèse. Il n'était pas au courant du tout. Évidemment, au départ, il refuse catégoriquement cette version de l'histoire qu'on lui annonce. D'autant que sa mère et sa sœur étant décédées toutes les deux au moment de ce fameux coup de fil révélateur, il lui est impossible de vérifier la véracité de ses dires auprès des intéressés. C'était sans compter son autre sœur, Lorraine, qui est en réalité donc sa tante, qui lui confirmera l'histoire en lui donnant certains détails. C'était en 1936. June avait alors 17 ans. Elle a quitté le lycée pour devenir danseuse de music-hall. La jeune fille tombe enceinte d'un homme marié.
Scandale !
Comme vous dites, pour éviter de jeter l'opprobre sur toute la famille, elle part accoucher en secret à New York et confie ensuite le bébé à sa mère Ethel, Là, vous avez compris, Stéphane, cette
fois. Oui,
c'est clair comme de l'autoroche. Pour Nicholson, le timing de cette découverte est finalement le bon, je cite. « Au moment où j'ai découvert qui était ma mère, j'étais assez mature. En fait, cela m'a éclairci un certain nombre de choses. C'était un événement assez dramatique, mais ce n'était pas ce que j'appellerais traumatisant. » Traumatisant, peut-être pas, mais impactant, certainement. C'est en tout cas l'avis de plusieurs critiques de cinéma qui expliquent que c'est après 74, donc après ces révélations, que Jack Nicholson se tourne vers ses rôles les plus sombres et les plus fous aussi, comme s'il affrontait ses propres démons, Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il sera aussi le terrifiant Joker dans le Batman de Tim Burton. Alors, est-ce que le fait d'avoir appris que sa sœur était sa mère a vraiment joué sur ses choix ? On ne le saura jamais. On notera quand même que tout ça devait le hanter un peu, puisqu'il n'a jamais souhaité faire de test ADN afin de valider de manière certaine cette version des faits. Aujourd'hui, Jack Nicholson est à la retraite. Il n'a plus tourné depuis 2010. Il a même refusé de jouer dans Ready Player One de Spielberg. Il faut dire qu'il n'a pas besoin de tourner. Hein. Il est riche à millions. Et côté reconnaissance, il a plus d'Oscars que sa cheminée ne peut en contenir. Il a aussi 6 enfants. 6 enfants reconnus en tout cas, même si d'autres apprendront peut-être un jour que leur sœur n'est pas leur sœur. Aujourd'hui âgé de 84 ans, Jack Nicholson peut se retourner sur le chemin parcouru et être fier dans sa carrière de ses Oscars, mais aussi de cette distinction peut-être la plus belle de toutes, être classé dans le top 10 des légendes du sexe par le magazine Maxim, avec plus de 2000 conquêtes répertoriées dans sa vie. Désolé Stéphane de vous apprendre que vous n'êtes qu'à la 11e place.
Comment ? C'est un scandale !
En même temps, quand on a la voix Georges Marchais figurée dans le classement des légendes du sexe, même à la 11e place, c'est déjà un exploit. Jack vous dit bravo.
Mais qui est le numéro 1 ? Je n'ai pas que la voix de Georges Marchais, j'ai son physique aussi.
Oui, qui est le numéro 1 ?
Oui, qui est le numéro 1 ?
Je pense qu'au sommet des légendes du sexe, c'est Julio Iglesias. L'homme aux 10 000 femmes.
Ah, 10 000
alors là, je pense
femmes.
Que, à mon avis,
il fait que ça, ça. Il ne peut faire que ça.
On n'a jamais fait.
À l'époque,
aujourd'hui, c'est
365 jours.
On n'a jamais fait Julio Iglesias.
Tout est non, mais.
Je sais pas dans quelle thématique on pourrait l'intégrer. Mais...
Attendez encore un peu.
Bah non, moi je fais les vivants, Stéphane.
Ah oui. Dépêchez-vous. Il faut se dépêcher, là.
Europe 1, historiquement vôtre.